Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Marc Golleridon, mais aussi Mélanie Chalandon, Bertie Bourdon, Nicolas Sendé, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde par Clément Daté. Deuxième volet de notre série consacrée aux pirates de l'espace numérique. Après avoir évoqué hier les hackers au service des États, avant d'aborder demain l'industrie de la cyberarnaque en Afrique et puis jeudi le rôle d'arbitre du web, des réseaux sociaux, intéressons-nous aujourd'hui à des pirates qui revendiquent de l'être pour la bonne cause, les lanceurs d'alerte.
Am I angry about the situation?
Est-ce que cette situation me met en colère? Oui, bien sûr.
Do you have to pay a price?
Est-ce que vous devez payer le prix pour ce en quoi vous croyez? Bien sûr.
Elle a refusé l'extradition au dernier moment et dans les tout derniers mots de son jugement, car elle a admis que Julian Assange présentait un risque de suicide et que s'il était placé sous le système carcéral américain, ce serait un acte d'oppression.
C'est un immense soulagement parce que les enjeux de ce verdict étaient très très importants sur le plan humain. Maintenant, on sait aussi que le combat n'est pas terminé. La juge, bien qu'acceptant de rejeter l'extradition, n'a pas fait droit aux arguments d'Assange sur le volet politique du dossier. Et donc, on rentrera maintenant dans une phase qui est plus que jamais politique pour mettre un terme définitif à cette cabale et à cette persécution dont Assange est victime depuis plusieurs années.
Dans l'ordre, Julian Assange, John Rees, le président de la campagne de soutien d'Assange, et puis Antoine V, l'avocat français d'Assange. Au début du mois de janvier, la justice britannique a refusé d'extrader vers les États-Unis Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, plateforme qui avait révélé les plus grosses fuites de données classifiées américaines jamais orchestrées. Poursuivi pour espionnage d'un côté, défendu au nom de la liberté de la presse de l'autre, Assange a finalement échappé à l'extradition en raison des risques que celle-ci faisait peser sur sa santé mentale. Une victoire en demi-teinte donc pour ses partisans qui auraient voulu le voir tout simplement innocenté des accusations d'espionnage à son encontre. L'affaire Assange illustre bien la position paradoxale des États-Unis vis-à-vis d'un idéal de transparence dont ils ont été, au sortir de la guerre froide, les premiers promoteurs. Un idéal qui se heurte dans toutes les démocraties occidentales qui le revendiquent à la persistance de la raison d'État et de la culture du secret, alors même que les opinions ont de plus en plus de mal à les accepter. Cet idéal de transparence, servi par l'émergence d'Internet et la possibilité jusqu'alors inédite de faire fuiter des données massives, ne concerne pas seulement le monde politique. Il se porte aussi sur les élites économiques, fréquemment incriminées par des révélations portant sur l'évasion fiscale lors de fuites de données non pas classifiées, mais bancaires, des Panama Papers aux LuxLeaks. Alors comment Internet et la culture numérique servent-ils l'idéal de transparence ? Dans quelle mesure celui-ci est-il partagé par les États et les opinions publiques? 10 ans après les révélations de Wikileaks sur les guerres américaines, la transparence a-t-elle vraiment gagné du terrain ou les États ont-ils plutôt renforcé la sécurité des données pour éviter leur fuite? Quels ont été les effets et contre-effets de cette décennie de révélations? Pour évoquer toutes ces questions, nous aurons invité ce matin d'abord Amaël Guiton, bonjour. Amaël Guiton, merci, ça y est, je vous entends. Amaël Guiton, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste à Libération, chef du service police, justice, enquête à Libération. Merci d'être avec nous. Avec nous également, Benjamin Puy-Barreau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vous doctorant aux séries Sciences Po à l'université Namur. D'abord, je voudrais vous faire réagir l'un et l'autre sur cette décision des juges britanniques qui se sont opposés à l'extradition de Julian Assange demandée par les États-Unis, considérant que sa santé ne le permettait pas. Ce qui veut dire qu'en réalité, le tribunal n'a pas contesté sur le fond la demande de procédure d'extradition. Que vous inspire cette décision, Amaël Guiton ?
C'est effectivement une décision en demi-teinte. À partir du moment où la juge effectivement n'a pas du tout rejeté les arguments de fond avancés par l'administration américaine, mais qu'elle a uniquement décidé que l'extradition serait abusive au regard du respect des droits humains. Donc à la fois, évidemment, pour lui, c'est une victoire. Et d'ailleurs, ses avocats le saluent comme une victoire. Ils ont demandé sa mise en liberté sous caution, qu'ils n'ont pas obtenue. Mais en tout cas, pour le moment, il ne sera pas extradé vers les États-Unis. Il y a encore un appel, évidemment, qui est pendant. Pour les défenseurs de la liberté de la presse, c'est effectivement un verdict qui laisse un peu un goût amer, puisque en fait, cette question-là, c'est-à-dire du bien fondé des révélations, n'a pas du tout été prise en compte par la juge. Donc c'est un verdict qui pour lui, enfin c'est une décision qui pour lui était effectivement une victoire personnelle. Au plan collectif, c'est une toute autre affaire. Et d'ailleurs, un certain nombre d'associations sont exprimées en ce sens, en disant que c'était tout de même sur le fond assez inquiétant.
Mais une victoire qui n'est en tout cas pas définitive. Benjamin Pubarot, sur cette décision des juges et puis sur l'appel, parce qu'effectivement, l'appel a déjà été formulé du côté de l'administration américaine. Est-ce qu'il vous paraît possible que finalement, eh bien, l'extradition soit décidée, Benjamin Pubarot?
Oui, c'est tout à fait possible. J'ai pas beaucoup de choses à ajouter par rapport à ce qu'a dit Maël Guiton sur la question du procès Assange. Effectivement, c'est une victoire en demi-teinte. Je pense que ce qui a aussi pesé, ce qui a dû peut-être peser dans la décision, c'est effectivement les abus dont a été victime Chelsea Manning, donc le whistleblower qui a été aussi à l'origine des fuites donc de l'affaire WikiLeaks en 2010. Mmh. Mais effectivement, un recours a été déposé par les États-Unis et c'est encore tout à fait possible que Julian Assange soit finalement extradé malgré ses conditions de santé physique et mentale.
Dans l'hypothèse où il le serait, Benjamin Pubarot, que risque-t-il, Julian Assange?
175 ans de prison, il me semble. Donc c'est quelque chose, c'est effectivement il risque très gros s'il est extradé. Alors après effectivement il y a des discussions en ce moment sur un possible pardon présidentiel accordé par Trump dans ces derniers jours, même si ça me paraît personnellement assez peu probable, même si on a vu que Trump a distribué beaucoup de pardons récemment. Mais oui, donc il risque effectivement très gros, jusqu'à 175 ans de prison s'il est finalement extradé.
Autant dire qu'en théorie, il pourrait finir sa vie derrière les barreaux. Ça, c'est pour la théorie.
Il pourrait finir sa vie derrière les barreaux.
Chelsea Manning, que vous évoquiez, qui est effectivement à l'origine de cette fuite, avait été condamnée à 35 ans de réclusion en 2013, mais elle a été libérée en 2017 après avoir bénéficié d'une réduction de peine sous Obama. Amel Guiton, vous racontez dans l'un de vos papiers que les ONG, les associations qui ont assisté et couvert ce procès d'Assange ont eu énormément de mal justement à le faire. Quelle est l'ampleur de ces difficultés, de ces blocages et comment vous les interprétez, Amel Guiton?
Alors, il y a d'abord évidemment la situation sanitaire. Moi, j'ai suivi la première partie du procès, c'était en février, si mes souvenirs sont bons. Donc il y avait déjà le Covid, donc évidemment l'accès à l'audience était compliqué par cet aspect-là. Il y avait par ailleurs énormément de monde. Il y avait une partie qui se faisait dans une petite salle avec une retransmission vidéo, etc. Et pour la deuxième partie du procès, dans des conditions sanitaires pour le coup extrêmement dégradées, ça a été encore plus difficile pour les observateurs associatifs. Moi, ce que j'ai effectivement noté, et je crois que c'est Reporters sans frontières qui s'en était fait l'écho, c'est que les journalistes ont eu a priori peu de difficultés à se faire accréditer au moins un par média. En revanche, effectivement, pour les ONG, ça a été plus difficile. Alors, comment l'interpréter, c'est toujours un peu compliqué. Il y avait manifestement l'idée que, entre guillemets, l'accès à la vidéo ne soit pas trop open bar, et donc avec une politique assez restrictive du tribunal et de la juge. J'imagine que dans sa tête à elle, c'était pour éviter au maximum que des photos ou des choses comme ça fuitent. Mais c'est vrai que pour les ONG, ça a été compliqué de faire ce travail d'observation, en fait, tout simplement, et de pouvoir constater le déroulement du procès, oui.
Amaël Guiton, c'était déjà il y a 10 ans. Peut-être faut-il un peu remettre les idées en place, et en particulier sur la personnalité de Julian Assange. Quand il crée en 2006 Wikileaks, Assange écrit un petit manifeste dans lequel il justifie la création de cette ONG. C'est un homme qui, par ailleurs, a appartenu à un groupe qui était baptisé Cypherpunk, qui est un groupe qui prenait l'utilisation de la cryptographie pour assurer l'anonymat et l'inviolabilité des échanges. Vous pouvez nous aider à comprendre la personnalité et les motivations d'Assange dans tout ça. Peut-être bien de rappeler deux, trois choses.
C'est vraiment quelqu'un qui est guidé par l'idée de la transparence du pouvoir. Pour moi, il y a deux textes qui sont assez fondamentaux en fait pour comprendre son fonctionnement intellectuel. Le premier, c'est effectivement ce texte qu'il écrit au moment où Wikileaks se crée, qui s'appelle « De la conspiration comme mode de gouvernance ». Il y a aussi un autre texte qui est en fait une conversation avec Eric Schmidt, qui était à l'époque patron de Google, et qui lui a rendu visite, je crois que c'était fin 2010, à l'époque où Assange était en liberté sous caution et qui vivait dans ce fameux manoir dans le Sussex, où il attendait justement la décision sur la demande d'extradition par la Suède, hein, dans une affaire de violence sexuelle où il était accusé. Et en fait, cette très très longue conversation a été intégralement transcrite et publiée par Wikileaks. Et il explique clairement que son objectif, c'est de renforcer les actes justes et de faire en sorte que se produise le moins d'actes injustes. Donc il a vraiment, et je crois que c'est important aussi pour comprendre pourquoi il a fait ça, il a vraiment une position morale, c'est-à-dire qu'il considère que plus l'information circule, moins les sphères de pouvoir peuvent se comporter de manière abusive. Et s'il crée Wikileaks, dit-il, c'est parce qu'il y a parmi les gens qui sont susceptibles justement de faire état de pratiques abusives des sphères de pouvoir, des gens qui sont menacés à des degrés divers, ça peut être de la pression, ça peut être une jusqu'à la mise en danger de sa propre vie, et il explique qu'il crée Wikileaks pour protéger, entre guillemets, ce qu'il appelle le sommet de la pyramide des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire ceux qui prennent le plus de risques, et que l'idée de Wikileaks, en fait, est de servir de caisse de dépôt, entre guillemets, à des lanceurs d'alerte qui se mettent en risque, en protégeant tout ça, effectivement, par la cryptographie. Mais il y a vraiment l'idée de créer une espèce de circulation d'informations qui permettent de lever le secret d'État, en fait. C'est vraiment une entreprise. Wikileaks est une entreprise contre le secret d'État.
Alors, justement, Benjamin Puy-Barros, sur l'objectif affirmé de Assange, qui consiste à protéger, finalement, les lanceurs d'alerte, protéger les sources. Quand il met en place ce Wikileaks, l'objectif, c'est effectivement d'avoir un outil qui permette de collecter des informations tout en protégeant ceux qui vous les livrent. Sauf que dans cette affaire-là, dans laquelle, souvenons-nous, ont été divulguées des photos d'humiliation de détenus dans les prisons d'Abu Ghraib, ou encore cette vidéo du raid aérien sur Bagdad, cette vidéo qui avait été baptisée Collateral Murder, qui montrait les bavures de l'armée américaine, en réalité, le FBI a non seulement désigné Bradley Manning, mais très très vite en réalité, désormais Chelsea Manning, comme la personne qui avait livré justement ces documents. Alors il y a deux choses. Est-ce que ça veut dire qu'en réalité, cet outil n'est pas efficace, et que quel que soit l'outil que vous mettiez en place, de toute façon, il n'est pas possible techniquement de protéger justement ces lanceurs d'alerte, ou est-ce que vous dites-vous, si au contraire, on a un outil là qui est performant, mais c'est autre chose qui finalement aboutit à la révélation des lanceurs d'alerte, à la révélation de leur identité. Benjamin Puy-Barros.
Alors sur l'affaire Chelsea Manning en tant que telle, on ne peut pas vraiment mettre en cause la qualité de l'anonymisation par Wikileaks, puisque en fait Chelsea Manning avait elle-même mis en danger sa propre sécurité en, il me semble qu'elle avait révélé à un collègue hacker sur Internet le fait qu'elle avait été à l'origine des fuites, et que ce collègue l'avait dénoncé. Un hacker l'avait dénoncé, et que c'est comme ça qu'elle avait été arrêtée. Donc Wikileaks n'avait pas été vraiment... pourrait pas vraiment être mis en cause sur cette affaire. Le fait est que les outils d'anonymisation de Wikileaks semblent être assez performants, et en tout cas ont permis à de nombreux lanceurs d'alerte de se sentir en sécurité lorsqu'ils ont donné des documents à Wikileaks qui ont ensuite été révélées par l'organisation.
Est-ce que ça veut dire est-ce que ce genre de pardon, vous voulez poursuivre, je vous en prie.
Non, j'avais terminé.
Benjamin Pubarot, est-ce que ce genre de dispositif fonctionne nécessairement en démocratie? J'ai bien entendu ce que nous expliquait Amaël Guiton, c'est-à-dire effectivement la démarche de Julian Assange, c'est de renforcer les actes justes et au fond d'améliorer les démocraties. Mais est-ce après tout, on pourrait très bien avoir dans des régimes autoritaires, voire carrément dictatoriaux, ce même type de dispositif. On pourrait avoir des informations qui seraient divulguées sur, par exemple, la manière dont les autorités chinoises gèrent la question des Ouïghours, sur, je sais pas, les prisons nord-coréennes. Or, il semble, effectivement, en tout cas au regard des 10 années qu'on vient d'avoir là, que c'est toujours les démocraties, d'une certaine manière, qui sont ciblées. Est-ce que c'est au fond, quelque chose qui est naturel, parce que, intrinsèquement, le lanceur d'alerte, la plateforme de collecte d'informations, ça ne marche que pour les démocraties, Benjamin Pubarot?
Alors c'est vrai que Wikileaks a été beaucoup critiqué sur le fait que, par exemple, il y avait eu très peu de fuites sur la Russie ou sur la Chine ou sur voilà des pays autoritaires, et que finalement la plupart des fuites ont concerné les démocraties occidentales, les démocraties libérales. Alors effectivement, on peut imaginer que déjà les lanceurs d'alerte se sentent qu'il y a une plus grande potentialité d'avoir des lanceurs d'alerte dans les démocraties puisqu'ils se sentent plus en sécurité. Ils se sentiraient moins en danger de révéler de telles informations. Mais voilà, il y a sûrement plusieurs facteurs qui rentrent en compte. C'est vrai qu'on peut aussi, il y a aussi Wikileaks, et notamment Julian Assange, a beaucoup été accusé de se concentrer, en tout cas de concentrer les révélations de son organisation sur les États-Unis. Et sur la démocratie libérale, alors est-ce que c'est une volonté effectivement de Wikileaks de dénoncer les actes de la plus grande démocratie du monde, ou est-ce que c'est le fait est qu'ils ne reçoivent des documents que de la part de whistleblowers qui sont issus de ces démocraties? C'est difficile à savoir.
Amaël Guiton, votre impression, vous, est-ce qu'il y a une intention d'attaquer effectivement la démocratie américaine ou pas du tout?
J'ai l'impression qu'en fait, il y a surtout le poids des événements, parce que quand on reprend en fait l'historique, et quand on peut d'ailleurs retrouver dans des archives web à quoi ressemblait le site de Wikileaks en 2006. À l'époque, il s'adressait essentiellement aux lanceurs d'alerte dans les régimes oppressifs en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient, dans l'ancien bloc soviétique, etc. C'est-à-dire que l'intention de départ était d'ailleurs plutôt d'offrir un système de soumission de documents confidentiels à des lanceurs d'alerte dans les pays les moins démocratiques, en réalité. Et d'ailleurs, au tout début, il y a eu quelques documents sur le Kenya, etc. Il y a eu aussi des choses sur la crise financière en Islande, si je ne m'abuse. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'en 2006, avec l'arrivée des documents transmis par Chelsea Manning, tout bascule. C'est-à-dire qu'on se retrouve à ce moment-là dans un affrontement qui est un affrontement direct et un affrontement violent, hein, par ailleurs. Il faut se souvenir aussi de ce qu'étaient les déclarations de l'administration américaine à l'époque. Entre, d'un côté, Wikileaks, qui est effectivement une petite organisation. Enfin, c'est une petite poignée, même s'ils travaillent avec des médias installés, même s'il y a des bénévoles, etc. Et de l'autre côté, la première puissance mondiale. Et à partir du moment où on entre dans cette configuration-là, on est dans une espèce de camp contre camp, finalement. C'est-à-dire que les documents de Chelsea Manning ont d'une certaine manière décidé du destin de Wikileaks. Après, je pense qu'il y a aussi chez Assange une dimension entre guillemets anti-impérialiste très forte, c'est-à-dire qu'il considère qu'effectivement les États-Unis étant la première puissance mondiale, il y a aussi un enjeu particulier à une transparence de cette puissance. Donc initialement, je dirais pas du tout qu'il y avait une volonté d'attaquer la démocratie américaine, mais je pense qu'effectivement à partir du moment où on a basculé dans cet affrontement, c'est devenu un enjeu particulier la question de la transparence de l'action du pouvoir américain. Oui.
Est-ce que cette question de la transparence aujourd'hui, vous diriez, 10 ans après, qu'elle est plus prégnante encore ou que finalement, elle est peut-être en recul? Parce que à l'époque de WikiLeaks, les commentateurs avaient beaucoup débattu autour de la question de cette transparence en démocratie, certains considérant qu'elle était indispensable, qu'elle devait être totale, d'autres considérant au contraire qu'il fallait aussi une part d'ombre parce que la raison d'État doit pouvoir vivre, disait-il. Sauf que 10 ans plus tard, c'est vrai que ce statut de la vérité, il a un peu changé. On est passé avec un Donald Trump dans l'ère de la post-vérité. On l'a beaucoup répété cette dernière décennie. Est-ce qu'il vous semble que cela modifie, Benjamin Puybarreau, la question des lanceurs d'alerte, de la transparence? Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, eh bien, les opinions sont plus ou moins préoccupées par leur sort?
Alors, c'est vrai que on se souvient effectivement que quand il y avait eu l'affaire WikiLeaks en 2010, enfin les révélations de 2010. Il y avait eu beaucoup de commentateurs et de journalistes qui avaient parlé de fin du secret. On serait entré dans une ère de la transparence qui serait effectivement dont les outils principaux seraient les outils du web 2.0 et dont les porte-voix seraient ce type de lanceurs d'alerte. Effectivement, ça avait été déjà très critiqué comme approche dès 2010. On avait vu notamment beaucoup de représentants politiques des démocraties, notamment en France ou au Royaume-Uni, aux États-Unis, qui avaient dénoncé cette volonté de transparence considérée comme trop radicale de la part des activistes de WikiLeaks, puisque ce qui était dénoncé, c'est effectivement l'idée que la transparence, si elle est poussée à l'extrême, elle peut être totalitaire, elle peut être antidémocratique. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a quand même un fort soutien de l'opinion à l'égard de ces lanceurs d'alerte, que l'idée de transparence fait quand même son chemin. Après, il faut...
Comment vous le mesurez, ça, Benjamin Puybarreau, ce soutien de l'opinion vis-à-vis des lanceurs d'alerte? Parce que moi, j'ai pas beaucoup vu de manifestations dans la rue pour soutenir Assange et consorts.
C'est vrai que c'est difficilement mesurable, mais quand on voit justement aujourd'hui le fait que il y a beaucoup d'appels qui sont lancés pour une grâce présidentielle, pour que Trump accorde une grâce présidentielle à Julian Assange, ça peut vouloir dire quelque chose. C'est vrai que dans le monde politique, il y a finalement eu assez peu de preuves de soutien envers des gens comme Assange et Snowden. Mais ils ont été considérés, pour beaucoup, en tout cas dans la communauté des cyberactivistes, dans la communauté cyber, comme des héros. C'est effectivement très difficile à mesurer ce soutien de l'opinion envers ces lanceurs d'alerte. Il y a quand même plus ou moins, depuis effectivement la fin de la guerre froide, et ce nouvel idéalisme international qui est né dans les années 90, enfin, en partie né dans les années 90, il y a quand même une exigence de plus en plus forte de moralisation de la vie politique portée par les valeurs libérales, au premier rang desquelles la valeur de la transparence.
Amaël Guiton, je vais vous faire réagir aussi sur la question de l'opinion vis-à-vis de ces lanceurs d'alerte, et peut-être qu'on pourra aller plus en avant et s'interroger aussi sur ce que tout cela a changé pour le journalisme, parce que ce qu'on a beaucoup remarqué aussi ces dernières années, c'est une crise de confiance profonde entre les journalistes et le public, et on pourrait se demander si l'évolution liée à l'émergence de ce type de plateforme, sur lesquelles on va donc déposer des documents et où ensuite on a des journalistes qui vont pouvoir traiter ces informations et sortir des grands scoops mondiaux, on n'en a pas manqué ces dernières années, hein, Panama Papers, Paradise Papers, Offshore Leaks, Footleaks, etc., etc., et j'en passe. Est-ce que ce travail-là a participé d'une reconstruction ou pas de la confiance du public vis-à-vis des médias, Amaël Guiton?
Alors, c'est vraiment une question qui, je trouve, est extraordinairement compliquée parce qu'il y a énormément de paramètres qui jouent. L'affrontement de la transparence et du secret d'État, c'est une très vieille histoire. C'est vrai qu'avec WikiLeaks, quelque chose change, ne serait-ce qu'en termes d'échelle. C'est-à-dire qu'il faut se souvenir qu'on parle de centaines de milliers de documents dans le cas de ceux sur les guerres d'Irak et d'Afghanistan, les fameux télégrammes diplomatiques, etc., transmis par Chelsea Manning. Ça a changé des choses à l'écosystème journalistique. Moi, je suis suis convaincue vraiment qu'il y a un avant et un après, à la fois sur les méthodes de travail, puisque finalement WikiLeaks, d'une certaine manière, a contraint un certain nombre de grands médias à travailler ensemble, ce dont ils n'avaient pas forcément énormément l'habitude, a d'une certaine manière essuyé les plâtres de ce que ça voulait dire que de traiter de très 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 grandes bases de données, y compris quand il faut enlever des noms de personnes, etc. Il y a aussi un travail de curation qui à l'époque était assez monumental. Et ce qu'ils ont aussi, je trouve, fait progresser, c'est l'idée de publier le document brut. Quand on fait une enquête, c'était extrêmement rare, je crois, avant WikiLeaks. C'est devenu beaucoup plus fréquent, finalement, d'accompagner un papier des documents concernés. Est-ce que ça renforce la confiance du public ? Il me semble que dans la tête d'Assange, c'est bien évident qu'il y avait cette idée-là au départ. Hein. Le data journalisme, ce qu'il appelle le data journalisme, ce qu'il appelle le journalisme scientifique, c'est justement quelque chose de très à plat, de très factuel, où on a les données brutes, qui d'une certaine manière doit donner plus d'éléments au public, plus d'éléments au lecteur, y compris pour lui-même faire le travail. Et d'ailleurs, WikiLeaks initialement est moins conçu comme un média que comme une archive à vocation historique. Ça, c'est aussi une dimension extrêmement forte.
Il n'empêche, Amaël Guiton, vous êtes journaliste et donc vous êtes aux premières loges pour mesurer justement cette défiance du public. Malgré tout ce que vous dites, on constate un effritement de la confiance du public vis-à-vis des médias en général.
Ah bah oui,
ça n'a rien changé. Bah oui, donc l'objectif d'Assange de départ d'il y a 10 ans, on peut pas dire que c'est une réussite de ce point de vue-là.
Bah en tout cas, c'est bien évident que ça ne suffit pas à répondre à cette question-là, surtout effectivement dans des périodes politiques extraordinairement compliquées. Ce qui est assez paradoxal d'ailleurs et ce qui est assez triste au fond, c'est que on constate aussi qu'en 2016, au moment de l'élection américaine, Assange lui-même joue un jeu finalement assez dangereux. La question de la publication d'énormes archives de mails des démocrates, etc., c'est évidemment un débat, mais ce qui lui a été énormément reproché à l'époque, y compris par des alliés de la première heure, je pense notamment aux gens qui font partie de la Freedom of the Press Foundation, etc., c'était toute sa communication qui surfait sans vergogne, disons-le, sur le soutien des Trumpistes, et c'était le fait que lui aussi, d'une certaine manière, jouait à la guerre de l'information. Or, on sait que la guerre de l'information, ça, c'est quelque chose qui ne renforce pas la confiance du public, ni dans les institutions, ni dans les médias qui sont toujours soupçonnés d'en être les victimes, plus ou moins consentantes, etc. Donc, on voit bien qu'il y a des éléments extrêmement lourds qui pèsent là dans la balance et qui font que, en effet, ce type de système et ce type de pratique, c'est-à-dire travailler sur des documents, publier des documents, etc., ne suffit pas à renforcer la confiance du public. C'est-à-dire que les faits ne suffisent pas à renforcer la confiance du public, tout simplement. Et ça, on le constate à bien d'autres égards.
Et oui, c'est ça l'ère de la post-vérité, justement. On va parler de l'affaire Snowden, qui avait notamment révélé l'ampleur de ces programmes de surveillance à grande échelle de la NSA, la National Security Agency américaine.
J'ai payé le prix fort. Je ne peux pas voir ma famille aussi souvent que je le pouvais. Je ne peux pas voir mes amis, mes collaborateurs, mes collègues. Je ne peux plus faire le travail où je pensais pouvoir amener quelque chose. Et je ne peux plus voir mon chez moi. Mais je ne pense pas avoir échoué. Je ne me sens pas déprimé. Je me sens plein d'énergie et encouragé. Je me réjouis de me réveiller chaque matin. Parce que malgré ce que j'ai perdu, j'ai la possibilité de faire ma part. Je sais que gagnant ou perdant, j'ai essayé de changer les choses et jusqu'à un certain point, je pense que je l'ai fait.
Voilà, Edward Snowden, en mars 2015, au micro de la RTS, la télévision suisse. Benjamin Puy-Barreau, vous aviez notamment signé un article récemment sur le site Open Diplomacy. Je rappelle que vous êtes associé à l'Institut Open Diplomacy, dans lequel vous interrogiez sur les effets et les contre-effets, si je puis dire, parce qu'il y a derrière ce que vous appelez le paradoxe, ce qu'on a appelé le paradoxe Snowden. Quand on pense à tout cela, on a vu pendant des mois des révélations qui s'enchaînaient sur la manière dont la NSA, l'agence de sécurité américaine, Ukraine et ses partenaires d'ailleurs collectaient des informations, y compris de citoyens qui a priori n'avaient absolument rien à se reprocher. Et là, les observateurs avaient énormément débattu sur cette question de la société de la surveillance qu'on découvrait un petit peu. Enfin, pas complètement, mais disons, dans cette ampleur-là, on ne connaissait pas l'ampleur de ces programmes-là. De votre point de vue, Benjamin Puybarreau, quels ont été les effets de tout cela? Edward Snowden dit « Je crois que j'ai participé à changer les choses ». Qu'est-ce qu'il a changé, justement? Qu'est-ce que ça a changé?
Alors, justement, là, c'est un petit peu... On peut faire le parallèle avec l'affaire Wikileaks, c'est-à-dire que on peut effectivement parler de changement, mais c'était des changements de moyen ou de long terme. Parce que si on regarde sur le court terme, ce qui s'est passé immédiatement ou dans les années qui ont suivi l'affaire Snowden, donc qui a révélé ces informations en 2013, en fait, ce qui s'est passé immédiatement après, c'est que la plupart des démocraties, en tout cas de nombreuses démocraties, ont finalement cherché à réformer leurs services d'enseignement pour adapter les cadres juridiques aux pratiques déjà existantes, c'est-à-dire aux pratiques de surveillance, voire même parfois à étendre les pouvoirs de surveillance des agences d'enseignement. Donc ça a été le cas au Royaume-Uni avec l'Investigatory Power Act en 2016, ou en France avec la loi renseignement de 2015. La loi de renseignement de 2015, il y avait un chapitre sur la surveillance internationale qui a légalisé le programme d'interception massive des communications transmises via les câbles sous-marins internationaux qui avait été déployé par la DGSE depuis 2008 hors de tout cadre légal. Donc ce qu'on a vu...
Aux États-Unis, pareil, on a eu quelques mois après un USA Freedom Act.
Oui. Alors aux États-Unis,
ça a changé.
Aux États-Unis, effectivement. Alors il y a eu, donc face à l'outrage international, Barack Obama a quand même dû réagir un petit peu. Donc il s'est engagé en janvier 2014 à réformer les programmes de surveillance de la NSA afin de garantir plus de transparence et plus de protection de la vie privée. Et donc effectivement, le Sénat a passé en 2015 le USA Freedom Act, qui a limité les pouvoirs de la NSA et a mis fin à la collecte massive et indiscriminée des données téléphoniques des Américains. Donc bien sûr, il y a eu effectivement des conséquences. On pourrait qualifier de positif sur le court terme, mais on peut aussi effectivement relayer le fait que les associations de beaucoup d'associations de défense des libertés ont critiqué ce USA Freedom Act puisqu'il avait des limites floues et elles ont estimé qu'il n'allait pas assez loin. Il faut aussi rappeler que ce texte, il a été voté en contrepartie donc de la prolongation de dispositions du Patriot Act qui avait été adopté en 2001 et qui accorde de très larges pouvoirs aux organismes de lutte contre le terrorisme. Donc les conséquences à court terme, c'est pas forcément beaucoup plus de transparence et c'est pas forcément beaucoup plus c'est beaucoup moins de surveillance, on va dire. Et en fait, ce qu'a montré l'affaire Snowden, et ça a montré aussi ce qu'a montré l'affaire Wikileaks, en quelque sorte, c'est que les États sont capables de faire preuve de résilience lorsqu'ils sont confrontés aux menaces posées par les lanceurs d'alerte et par les nouvelles technologies.
Amaël Guiton, à côté de ces réformes des agences de surveillance qui, on le voit, n'ont finalement pas changé grand-chose, voire ont empiré la situation, dit Benjamin Puybarreau, on a aussi eu des acteurs privés qui, eux, ont affirmé une certaine indépendance vis-à-vis du pouvoir politique, avec ce souci de garantir la protection des données de ses clients, leur vie privée, pour des raisons de crédibilité. Attention, pas forcément dans une visée éthique ou morale, mais parce que tout simplement, c'est une pièce indispensable pour éviter l'effondrement de leur modèle économique. On se souvient par exemple comment Apple, en 2016, avait refusé au FBI l'accès à ces données au nom de la protection justement de la vie privée et des données de ses clients. Est-ce que vous diriez, Amaël Guiton, que les entreprises se sont montrées déterminées dans cette lutte contre cette logique de la surveillance tout azimut, ou tout cela n'est que de la communication et en réalité elles sont restées, elles sont main dans la main avec les gouvernements? J'aime pas tellement cette formule-là parce que ça donne l'idée que tout cela serait un grand complot, mais au fond qu'elles n'ont pas voulu en faire trop contre le pouvoir politique, Amaël Guiton.
Je pense pas que ce soit que de la communication. Moi, pour tout dire, hein, cet épisode me rappelle beaucoup, en fait, un épisode qui s'est joué à la fin des années 90 déjà, et c'en est quasiment un décalque. Aux États-Unis, il y a eu un débat politique extrêmement vif autour de la question de la libéralisation de la cryptographie, parce qu'à l'époque, on pouvait pas faire ce qu'on voulait, tout ça était une technologie militaire, etc. Et en fait, face à l'administration américaine, s'est construit une espèce de front commun alliant d'un côté, effectivement, des militants l'encadrement des libertés individuelles, justement les cypherpunks dont vous parliez au tout début, des associations, enfin des organisations comme l'American Civil Liberties Union, qui est donc l'association de défense des libertés civiles, et de l'autre côté un certain nombre d'entreprises pour qui c'était une nécessité économique, effectivement, de pouvoir protéger les échanges de leurs clients. Et au final, d'ailleurs, la cryptographie a été libéralisée aux États-Unis, puis dans la plupart dans les démocraties occidentales, dans les années qui ont suivi, donc y compris la France. Et finalement, on se retrouve un peu dans cette même configuration, c'est-à-dire que pour un certain nombre de grandes entreprises privées, c'est une question de marché aussi, de pouvoir dire vos communications ne sont pas ouvertes à tous les vents, nous vous garantissons qu'elles seront protégées, etc. D'où effectivement l'affrontement très fort et très symbolique hein, entre Apple et le FBI il y a quelques années. Après, c'est toujours des jeux de pression et de contraintes légales aussi, sachant qu'il y a des acteurs par ailleurs plus petits. Je pense à une messagerie privée comme Signal, dont le modèle est un modèle de entre guillemets d'ONG. Et qui aujourd'hui d'ailleurs a de plus en plus d'utilisateurs, etc., qui eux ne sont pas tout à fait dans les mêmes régimes de contraintes, mais il y a d'une certaine façon...
Notamment Amel Guiton, parce qu'il quitte WhatsApp, hein, c'est l'actualité très forte en ce moment, parce qu'il considère précisément qu'on assiste à une forme de dérive et que justement cette protection de l'anonymat et des données ne serait plus assuré justement par WhatsApp, et raison pour laquelle Signal, l'application que vous évoquiez, marche très fort en ce moment. Je ferme la parenthèse et je vous laisse poursuivre.
Oui, effectivement, ils enregistrent là un afflux. Donc c'est toujours une espèce de jeu de, alors pas tellement de chat et de souris, mais d'une certaine manière, c'est toujours un peu la course entre d'un côté la surveillance et de l'autre la protection des communications. Donc on est précisément dans cette question-là en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a d'autres projets qui sont en discussion dans un certain nombre de pays, d'ajustement de la législation, etc. On sait qu'en France, on aura probablement une nouvelle loi renseignement encore cette année. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que les acteurs privés renforcent leur système de protection, il y aura de nouvelles contraintes légales pour justement les contourner. C'est un éternel affrontement qui s'est déjà joué, qui se joue maintenant et qui se rejouera à l'avenir très certainement.
Benjamin Puybarreau, encore un mot et puis ensuite on va accueillir un nouvel invité. Mais dans l'article auquel je faisais mention tout à l'heure, publié sur Open Diplomacy, vous rappeliez, vous expliquiez donc que cette affaire Snowden n'avait au fond pas engendré de remise en cause profonde de la part de notre démocratie sur ces questions de pratiques d'espionnage. Au fond, pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi est-ce que nos démocraties ne sont pas capables de remettre en question cette surveillance généralisée? Est-ce que c'est parce que finalement, ça n'intéresse pas beaucoup les citoyens? C'est parce que nos gouvernants n'ont pas envie ou pas les moyens? C'est parce que de toute façon, on a des acteurs qui, eux, traînent des pieds et évitent le changement? Enfin, comment vous comprenez les choses?
Il y a plusieurs éléments qui sont à mettre en lumière ici. Aucun ne vient expliquer la totalité de ce paradoxe, enfin au moins de cette interrogation. Déjà, effectivement, un élément qui est souvent avancé pour expliquer le fait que ces programmes de surveillance sont maintenus malgré les critiques, c'est le fait que finalement les États ont réussi à mobiliser de manière assez efficace l'opinion publique, la crainte de la menace terroriste, pour convaincre les opinions publiques de la nécessité de telles réformes du renseignement. C'est-à-dire que la peur de certaines menaces transnationales, notamment la menace du terrorisme islamique, a permis à ces États de mettre en place ces réformes du renseignement qui ont fait suite à l'affaire Snowden sans trop de remous, sans trop d'opposition. Il y a d'autres types d'explications qui sont avancées, qui sont intéressantes. Alors notamment, effectivement, dans l'article que vous citiez, je fais référence au juriste et politologue Bernard Harcourt, qui a écrit en 2020 un livre qui s'appelle La société d'exposition.
Et qui était paru au Seuil, très intéressant.
Oui, un livre très intéressant et qui propose un autre type d'explication, qui s'appuie sur l'idée que, en fait, la surveillance numérique s'appuie avant tout sur un autre profond désir de nous exhiber sur Internet. C'est-à-dire que L'idée est que c'est avant tout, plus que le rôle des États, c'est le rôle des individus, des citoyens qui mettent ici en avant, puisque le chercheur américain va insister sur le fait que nous renonçons volontairement à la liberté en acceptant toutes les dérives sécuritaires, puisque nous ce renoncement à la liberté est lié au plaisir que va nous procurer le fait de livrer des informations à nous, sur nous-mêmes sur Internet. Donc là, voilà, c'est un type d'explication qui est lié effectivement au fait que la plupart des informations qui sont glanées par les services d'enseignement sont des informations qui sont la plupart du temps ouvertes, qui sont sur Internet, diffusées par nous-mêmes sur les réseaux sociaux.
Oui, des arguments au fond quasiment anthropologiques et qui peut-être éclairent d'un jour inhabituel ces questions-là. On était avec vous, Benjamin Pubarot, et vous, Amaël Guiton, dans cette série consacrée aux pirates 2.0. On parle aujourd'hui des lanceurs d'alerte et on va regarder comment la Commission européenne a adopté en 2019 une directive pour visant à protéger les lanceurs d'alerte. On en parle tout de suite.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Ça fait maintenant plusieurs semaines et même plusieurs mois que je vous parle de la protection des lanceurs d'alerte. Enfin, nous avons trouvé un accord entre les États membres et le Parlement européen sur ce que doit être une protection européenne des lanceurs d'alerte. Si vous avez suivi les débats, vous savez que les discussions ont été très dures sur la possibilité pour les lanceurs d'alerte de s'exprimer directement auprès d'une autorité compétente, là où certains États voulaient les obliger à d'abord signaler à leur organisation, à leur hiérarchie, à leur entreprise, certains agissements qu'ils souhaitaient voir dénoncer. Et donc, si finalement, hier soir, nous avons trouvé un accord et nous avons convaincu les États membres de supprimer cette obligation et de laisser les lanceurs d'alerte directement s'adresser à une autorité externe, c'est aussi grâce à la mobilisation de vous tous. Grâce à cet accord, grâce à cette mobilisation, nous avons maintenant une protection des lanceurs d'alerte qui est sur la table et qui constitue un socle fondamental pour le bon fonctionnement de la démocratie européenne.
Voilà, on entendait à l'instant la voix de l'eurodéputée Virginie Rozière, qui était la rapporteure sur la directive et qui annonçait donc cet accord avec les États membres sur la protection des lanceurs d'alerte. C'est évidemment une directive qui est encore en cours de transposition dans les droits nationaux, mais c'est un texte ambitieux qui fait écho à l'arsenal législatif déployé du côté des États-Unis pour garantir les droits des whistleblowers, au niveau fédéral comme au niveau des États, mais de part et d'autre de l'Atlantique, ces mesures destinées à s'appliquer dans les administrations comme dans les entreprises font l'impasse sur les services de renseignement. On va probablement y revenir. Jean-Philippe Fogel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes doctorant en droit public à l'Université Paris-Nanterre et coordinateur de la Maison des lanceurs d'alerte. Cette Commission européenne qui adopte en 2019 cette directive sur les lanceurs d'alerte pour harmoniser un peu les droits au sein de l'Union, vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce qu'il y a dans cette directive et si, pour vous en tout cas, ça vous semble constituer une avancée importante ou en réalité tout cela est un peu de la cosmétique?
Alors, on a entendu à l'instant les propos de Virginie Rozière qui a rappelé en fait la principale avancée de cette directive par rapport à ce qui existe en droit français. En droit français actuellement, on a un système qui oblige le lanceur d'alerte à saisir d'abord son entreprise avant d'envisager de saisir une autorité. Dans la plupart des cas, ça conduit la personne à se jeter en fait d'une certaine manière dans la gueule du loup et souvent aussi de ralentir en fait le traitement de l'alerte. Cette directive-là, quand elle sera transposée en droit français, elle permettra au lanceur d'alerte de saisir soit son employeur, s'il le juge pertinent, soit une autorité. Donc ça, c'est vraiment une grosse avancée. Mais il y a un certain nombre aussi d'autres avancées dans cette directive qui, effectivement, est un texte très ambitieux, surtout quand on pense, quand on envisage un peu le chemin parcouru depuis ces 10 dernières années en matière de protection des lanceurs d'alerte. Tout d'abord, cette directive, elle prévoit aussi la protection des facilitateurs d'alerte. Donc les facilitateurs d'alerte, c'est tout simplement un collègue de bureau, un délégué syndical, ça peut être une association, c'est en fait toutes les personnes qui aident le lanceur d'alerte à porter son alerte. En fait, nous, ce qu'on voit à la Maison des lanceurs d'alerte, dans les personnes qu'on aide, c'est que généralement, la personne, en fait, contrairement à ce qu'on pense, elle n'est pas seule, il y a toujours... La personne reçoit toujours des informations de collègues, elle reçoit toujours l'aide d'un délégué syndical, elle reçoit le soutien de sa famille, elle reçoit le soutien d'associations. Donc tout ce microcosme de personnes qui aident les lanceurs d'alerte et qui souvent font face à des représailles, ces personnes-là vont être protégées. Autre avancée majeure de cette directive, le fait que cette directive prévoit que les autorités sont obligées d'expliquer aux lanceurs d'alerte ce qui a été fait pour remédier au problème dénoncé. Actuellement, ce que montrent les sondages un peu partout dans le monde, et y compris en France, c'est que les cadres ou salariés qui ne lancent pas l'alerte en dépit du fait qu'ils ont été confrontés à des situations problématiques, ne le font pas pour deux raisons. Ils ne le font pas par peur des représailles, mais aussi surtout parce que dans beaucoup de cas, ils pensent que rien ne sera fait pour remédier à ce qui est dénoncé. Donc cette directive obligera les États membres à expliquer dans un délai de 3 mois ce qui a été fait pour remédier à la problématique dénoncée. Donc voilà, il y a beaucoup d'avancées dans ce texte-là. Ce texte-là, évidemment, on peut toujours aller plus loin. Néanmoins, comme j'ai dit, il faut mesurer le chemin parcouru. Quand on a commencé à parler d'une protection européenne des lanceurs d'alerte en 2015, la Commission était plutôt vent debout contre l'initiative. Il faut rappeler, comme l'a rappelé Virginie Rosière, que jusqu'au dernier moment, la France et l'Allemagne ont poussé pour que les lanceurs d'alerte soient toujours obligés de saisir leur employeur en premier lieu. Donc si on envisage le chemin parcouru, si on voit ce que contient cette directive, et surtout si on garde à l'esprit que cette directive va protéger 570 millions de personnes, aujourd'hui un peu moins avec le Brexit, c'est une avancée historique au niveau non seulement européen, mais aussi mondial.
S'adresser d'abord à son entreprise, c'est ce que prévoit précisément la loi dite Sapin 2 de novembre 2016, justement. Donc c'est en cela que ça va constituer une vraie avancée. Mais vous dites, Jean-Philippe Vogel, c'est une avancée, mais il y a encore des choses qu'on pourrait améliorer. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Qu'est-ce qui, pour vous, serait nécessaire? Quelles mesures faudrait-il prendre, justement, pour encore améliorer les choses, pour aller encore plus loin? Qu'est-ce qui pêche encore?
Alors, ce qui pêche essentiellement, en tout cas ce qu'on porte, nous, en tout cas à la Maison des lanceurs d'alerte, c'est plusieurs choses, notamment en premier lieu l'assistance financière et juridique aux lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte se trouvent souvent dans une situation où il est démuni, où personne n'arrive à lui donner un conseil juridique valable, excepté un certain nombre d'associations, aujourd'hui le défenseur des droits, qui malheureusement ne dispose pas des moyens humain pour mener à bien sa mission. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une autorité indépendante, suffisamment dotée en moyens financiers, qui soit capable d'aider les lanceurs d'alerte. Aussi, un autre élément important, c'est
au niveau européen, que je comprenne bien, au niveau européen.
Plutôt au niveau français, malheureusement, au niveau européen, on a vraiment, avec ce processus d'adoption d'une directive, je pense qu'on a vraiment poussé jusqu'au bout toutes les possibilités d'avancer au niveau européen sur cette question. En tout cas, en France, l'instauration d'un fonds de soutien alimenté par les amendes imposées aux entreprises, et aussi bien sûr la protection des personnes morales qui lancent l'alerte, parce que souvent des syndicats, des associations vont être en contact avec des lanceurs d'alerte et vont lancer l'alerte à la place du lanceur d'alerte. Et cette situation-là, elle permet aussi aux personnes d'être protégées, parce que quand c'est une association qui lance l'alerte à votre place et que vous restez anonyme, vous avez moins de chances de perdre votre emploi.
Donc une autorité indépendante. Mais Jean-Philippe Vogel, il y a un domaine évidemment qui reste à l'écart de tout cela, c'est les renseignements. Je le disais dans mon propos introductif, c'est vrai que si on regarde par exemple la France, les services de renseignement sont extrêmement fermés. En même temps, on le comprend. On a pu toucher du doigt justement l'ampleur de cette fermeture dans cette fameuse série Le Bureau des Légendes, où le droit d'en connaître est un principe cardinal qui fait que même à l'intérieur des services, l'information est extrêmement contrôlée. Est-ce qu'il vous semble, vous, souhaitable d'obtenir des avancées en la matière et peut-être d'organiser les choses de sorte à avoir un canal qui permettrait à des fuites et des lanceurs d'alerte d'orchestrer justement tout cela?
Tout à fait. Quand on écoute un peu les intervenants précédents, en fait, la réponse est presque dans la question. C'est-à-dire que ce qu'on a vu avec l'affaire Snowden, mais ce qu'on a aussi vu plus récemment avec notamment les ventes d'armes au Yémen, c'est que malheureusement, même si dans la majorité des cas le secret défense est justifié, notamment par la nécessité de protéger les populations, de se protéger du terrorisme, on voit aussi que malheureusement, parfois, le secret défense est utilisé pour taire des violations des droits humains. Donc évidemment, il est souhaitable qu'il y ait une protection des lanceurs d'alerte tout d'abord en interne. Donc cette protection-là, il faut savoir qu'elle existe en France. Il y a la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement qui permet à des agents des services de lancer l'alerte de manière confidentielle auprès d'elle. Le problème, c'est qu'on sait très peu, évidemment, de cette procédure. Cette procédure est relativement restreinte. Elle est enfermée dans le secret défense. Et surtout, le juge, par exemple, aujourd'hui, le juge n'a pas accès à des informations secret défense, qui, évidemment, est un obstacle majeur. Donc, il faut évidemment renforcer ces procédures-là, rendre les différentes commissions plus indépendantes, permettre au juge d'avoir plus facilement accès à des informations classifiées, parce que dans une démocratie, c'est le juge qui est généralement le mieux placé pour juger de l'existence ou non d'une violation des droits humains. Et puis aussi, il faut aussi, dans certains cas, évidemment, permettre, dans des cas très restreints, évidemment, mais il faut pouvoir permettre, dans certains cas, à des lanceurs d'alerte de pouvoir révéler des violations massives des droits humains lorsque ça est nécessaire.
Ouais.
Notamment, au niveau international, il y a les principes qu'on appelle les principes de Chuen, qui sont des principes non contraignants, mais qui recommandent aux États de permettre aux lanceurs d'alerte de pouvoir échapper à des poursuites en prouvant qu'ils ont agi, qu'ils ont révélé des informations à la presse, non pas dans le but d'aider une puissance étrangère, non pas dans un intérêt personnel, mais dans le but de mettre fin à une violation des droits humains.
Oui, et je vous en prie, allez-y, poursuivez.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme, qui fixe un peu les standards en matière de droits de l'homme au niveau international, a finalement défendu en 2013, a donné raison à un agent des services de renseignement roumain, qui était en fait en quelque sorte un Snowden roumain. Il avait révélé un système d'espionnage des communications de différents militants, de différents hommes politiques. Et dans cet arrêt-là, l'arrêt pour cours de 2013, la Cour européenne des droits de l'homme a dit non seulement que dans ce type de cas, quand le secret défense sert à masquer les violations des droits humains, les États doivent faire en sorte de ne pas condamner la personne pour violation du secret défense.
Amel Guiton, tout dernier mot, parce qu'évidemment, il y a le cadre légal qui évolue et on s'en réjouit, mais il y a aussi du côté des États une aspiration justement à protéger des documents qu'on considère comme secret défense. Vous racontiez récemment dans un article publié dans Libération comment la CIA, par exemple, avait mis en place un dispositif permettant de tracer ces documents à l'aide de balises espionnes, je reprends la formule que vous utilisiez, une sorte de tatouage numérique qui permet de tracer le parcours des documents. Donc il va y avoir aussi là une course entre les lanceurs d'alerte et les services de renseignement qui travaillent pour justement sécuriser au maximum leurs documents, Amel Guiton.
Oui, mais alors pour le coup, en plus, il faut aussi garder en tête, évidemment, qu'il y a probablement une forme de d'angoisse ou de paranoïa dans les services de renseignement américains, précisément après les précédents Chelsea Manning et Edward Snowden. C'est-à-dire qu'ils ont eu quand même d'énormes fuites. Il y a aussi le cas de Reality Winner, qui est une jeune femme qui avait transmis des documents et qui, du coup, croupit en prison, elle aussi. Donc il y a effectivement, de leur côté, des tas d'outils, y compris évidemment techniques, pour essayer d'avoir le moins de fuites possible. Donc encore une fois, c'est cette éternelle question de l'affrontement de la transparence et de la raison d'État qui se joue. Juste peut-être un petit mot sur ce que disait Jean-Philippe Fogel. La question de la transmission à la presse pour faire des révélations, elle reste entière, et elle reste entière notamment en France, où les lanceurs d'alerte peuvent toujours être poursuivis pour violation du secret de la défense nationale ou du secret des affaires, etc. Et les journalistes eux-mêmes pour recel. Et donc là, on voit bien quand même que le cadre légal n'est pas satisfaisant pour permettre aussi précisément de rendre public des informations qui sont justement d'intérêt public.
Merci beaucoup à tous les trois. Jean-Philippe Fogel qui est avec nous par téléphone, Benjamin Puy-Barreau et Amel Guiton. Merci infiniment à tous les trois. Les références de vos ouvrages, vos articles à retrouver sur la page de Culture Monde. Quand on entend un peu de Bob Dylan, un certain Brice Couturier n'est jamais très loin, on le retrouve.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
En effet, bonjour Florian.
Alors la pandémie de Covid-19, Brice, a renvoyé dans les mémoires collectives à une crise précédente que la guerre de 14 avait eu tendance à y évincer, la grippe espagnole de 1918-1919.
Eh oui, dans l'article qu'il consacrait dans le quotidien britannique The Guardian au livre de Laura Spinney, Pale Rider, qui raconte précisément cette grippe espagnole, Colin Grant écrivait, je le cite, « Les centres pour le contrôle et la prévention des pathologies sont persuadés qu'une autre pandémie est probable, sinon inévitable. » L'article en question date du 22 juillet 2019. Moins de 5 mois plus tard, une nouvelle épidémie, en effet, était signalée par des lanceurs d'alerte chinois à Wuhan. La pandémie du Covid-19 avait débuté. À ce jour, ce virus a tué plus de 2 millions de personnes, dont plus de 400 000 aux États-Unis, plus de 200 000 au Brésil et plus de 70 000 en France. On est encore loin des 50 millions de victimes de la grippe espagnole. Or, c'était une époque où l'humanité était 4 fois moins nombreuses sur Terre qu'aujourd'hui. Mais le plus étonnant, relevait Laura Spinney dans son livre, c'est l'oubli dans lequel était tombé ce désastre, la grippe espagnole, alors même qu'il a ôté davantage de vies que la Première Guerre mondiale elle-même, à laquelle il succédait immédiatement. Le WorldCat, la plus grande bibliothèque du monde, recense plus de 80 000 livres en plus de 40 langues consacrés à la guerre de 14-18 pour seulement 400 en 5 langues sur la grippe espagnole. 2 fois moins donc. Pourquoi cet oubli ? Comment la mémoire de la grippe espagnole a-t-elle été réactivée par l'actuelle pandémie ? Telles sont les questions que pose le plus fameux essayiste bulgare actuel, l'excellent Ivan Krastev. Première réponse, une épidémie est difficile à raconter parce que par définition, il ne s'y passe rien. Si la guerre a pu être décrite par des écrivains comme Ernst Jünger comme une occasion d'intensifier l'expérience existentielle, d'exacerber les sensations, de déchaîner les instincts, l'épidémie, elle, ne fait pas de bonnes histoires. Il n'y a ni amis, ni ennemis, ni bons, ni méchants, et c'est bien pourquoi il fallait des talents aussi exceptionnels que ceux de Daniel Defoe ou d'Albert Camus pour parvenir à nous passionner à propos d'un épisode de peste. Durant une épidémie, on subit d'abord l'épreuve de l'isolement. Chacun est ramené à la perception de sa propre vulnérabilité et de son impuissance. Le poète russe Joseph Brodsky décrivait l'effet de la prison comme un rétrécissement de l'espace causé par un étirement du temps. Quand les gens sont confinés dans leur foyer, hantés par la peur de la contagion, il n'y a pas que l'ennui qui les menace, il y a aussi la paranoïa. C'est pourquoi une société confinée est nécessairement une société fermée. Avec l'espace, c'est la vie même qui semble rétrécir et se rabougrir. Nos libertés fondamentales, celles d'aller et de venir, de rencontrer nos amis, de nous rendre dans des lieux publics, nous sont retirées par un pouvoir qui n'a pas d'autre moyen de nous protéger. On a le sentiment de faire du surplace et d'être privé de notre capacité à nous projeter dans l'avenir. Nos projets de vie demeurent au point mort, dans l'attente du retour à la vie normale. Ces dernières décennies, dans nos pays, la sphère des libertés n'avait cessé de s'élargir. De plus en plus de gens voyageaient de plus en plus souvent et de plus en plus loin. Le changement le plus frappant, ce sont ces aéroports, puissants symboles de la mondialisation, aujourd'hui désespérément désert.
Mais Brice, cependant, comme l'écrit Krastev, si l'expérience de l'épidémie, c'est celle d'une période où rien ne se passe, c'est aussi une occasion pour que tout change.
Et il prend l'exemple de sa propre famille. Les Krastev vivaient à Vienne depuis plusieurs années, ils y avaient leurs amis, leurs habitudes, leur café préféré. Mais aussitôt proclamées les mesures de confinement, ils ont décidé de retourner chez eux en Bulgarie. S'il faut rester à la maison, alors la maison, c'est l'endroit où l'on parle votre langue. 200 000 Bulgares sont ainsi rentrés à la maison pour cause de pandémie, alors même qu'ils ont quitté pour la plupart des cas pour se faire des pays où le système de santé était d'une qualité bien supérieure à celle qu'ils ont dans leur propre pays. Dans les moments de grand péril, nous parlons tous de manière inconsciente dans notre langue maternelle, observe Krastev. Et en même temps, suspendus aux nouvelles du monde sur nos écrans, nous devenons citoyens du monde, curieux de la manière dont les autorités font face aux crises cumulées chez les autres. Pourquoi parvient-on à vacciner plus vite chez les voisins ? Il se crée ainsi une conversation mondiale où l'on parle bien des mêmes sujets. L'isolement et le cosmopolitisme ne sont pas contradictoires, conclut Ivan Krastev. Emmanuel Kant, le chantre des Lumières cosmopolites, n'a jamais quitté sa ville de Königsberg, aujourd'hui devenue russe sous le nom de Kaliningrad.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. On vous retrouve demain dans un très court instant. C'est Olivia Gesbert et la Grande Femme.
France Culture. L'esprit d'ouverture.